Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B. Eh bien, ça commence. Au menu aujourd'hui, l'info du jour. Un rapport judiciaire préconise une reprise des travaux sur l'incinérateur de Villejean. Une interview pour annoncer les 48 heures de l'agriculture urbaine ce week-end. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, le décryptage d'un colloque consacré à la prise en soin des personnes exilées. Et puis, trois recommandations pour le week-end. Bienvenue dans la reine. Et c'est parti, on commence l'émission avec l'info du jour, une que je choisis pour vous parmi d'autres dans la presse locale. Aujourd'hui, c'est à lire dans le quotidien Ouest-France, un rapport remis au tribunal administratif l'assure, le chantier de rénovation de l'incinérateur de Villejean à Rennes peut reprendre. Alors il faut remettre un peu de contexte, cette usine de traitement de déchets a été mise à l'arrêt au printemps 2022. Objectif, rénover l'installation, dont plusieurs chaudières qui dataient des années 60. Le site, il aurait dû rouvrir en décembre dernier, mais Rennes Métropole s'y est opposée, soutenue par la préfecture. La métropole mettait en avant un risque sur deux nouvelles chaudières, en s'appuyant d'abord sur les observations d'ingénieurs, puis sur le contrôle d'une société spécialisée dans les normes. En tout, 13 points de non-conformité avaient été relevés lors d'expertises complémentaires. Alors depuis, c'est une bataille juridique qui oppose la collectivité à la société italienne RUT, en charge de la construction des chaudières qui sont jugées problématiques. Et ce nouveau rapport, remis par un expert au tribunal administratif, il va sans doute faire bouger les lignes. Il y est question, pour être un peu plus précis, d'une mauvaise lecture des normes par Rennes Métropole. Ce litige, il a pour conséquence d'entraîner une facture qui commence à être salée, 2,8 millions d'euros de surcoût mensuel en lien avec le transfert des déchets vers des territoires limitrophes. Les habitants ont déjà été mis à contribution avec une augmentation de la taxe d'ordures ménagères, c'était le mois dernier. La réponse de Rennes Métropole, c'est la suivante. Le rapport de l'expert judiciaire ne constitue qu'une expertise parmi d'autres et, je cite, « les doutes sur la conformité des installations demeurent suffisamment préoccupants pour que la métropole continue d'appliquer le principe de précaution qui a toujours présidé à ses décisions. En tout, il s'agit d'un chantier à 110 millions d'euros auquel pourraient s'ajouter des dizaines de millions d'euros supplémentaires si des modifications devaient être apportées aux équipements existants. Ça, et puis la mise en danger économique du chaudiériste italien depuis l'arrêt du chantier. Allez, après ça, on continue avec l'interview du jour. Hélène Brett et Laetitia Weber, bonjour.
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 Je vous présente Hélène, vous faites partie de cette association L'École Vert qui fait vivre le potager des cultures dans le quartier du Blône. Votre casquette précise ?
Moi je suis directrice et coordinatrice.
Directrice et coordinatrice. Et Laetitia Weber, vous venez nous parler de l'école comestible, une structure qui participe à l'événement qu'on annonce là, les 48 heures de l'agriculture urbaine à Rennes. C'est à vivre du 24 au 26 mai dans plusieurs lieux de la ville et puis même ailleurs en France. Le site internet, on le donne déjà pour retrouver toute la programmation, c'est les48heures.com. On commence par redire un mot sur l'histoire de cet événement qui dépasse donc l'échelle rennaise, qui existe depuis 2016, si j'ai la bonne date.
C'est ça.
Et donc ouais. À Rennes, quand est-il arrivé ?
Alors, à Rennes, il est arrivé dans ces eaux-là au départ proposé par la ville de Rennes pour des professionnels. Et ensuite, nous, en 2020, on s'est saisi de la coordination de cet événement. Et donc, ce sera la quatrième session.
On dit un peu un mot sur l'édition précédente, en 2023, combien de personnes sont venues ? C'est vraiment un événement qui, quand il fait beau, rassemble beaucoup de monde.
Quand il fait beau, ouais. On a eu plus de 1000 participants l'année dernière sur un ensemble de 18 propositions qui ont été faites par 13 structures, principalement associatives, mais pas que, du territoire rennais et Rennes Métropole.
Cette année, ce sont combien de structures qui participent ? Un petit peu moins ?
Un tout petit peu moins. On est entre... encore 10 et 15. Par contre, on a plus de propositions. On a 25 activités qui sont proposées.
Alors, il y a des associations, mais pas que, et qui nous emmènent même hors de Rennes.
Ouais,
dans
absolument.
La métropole.
On a demain, par exemple, on a la chambre d'agriculture qui se rend sur le terrain du Pré, qui est un de nos terrains au col vers Rennes, pour justement faire un rendez-vous pour les professionnels pour comprendre les enjeux de l'agriculture urbaine. Et donc ça, c'est sur Champy.
et il y a aussi des choses à vivre du côté de Saint-Jacques-de-la-Lande, Taurigny-Fouillard et puis Rennes, évidemment. Alors l'agriculture urbaine, il faut d'abord en redire un mot, c'est un dossier qui est soutenu politiquement par la ville de Rennes et Rennes Métropole. Il y a des projets comme ça qui naissent sur le territoire, plutôt portés par des associations et puis à des dimensions humaines. On n'est pas sur une production énorme, on est plutôt là pour amener les gens à remettre les mains à la terre.
Ouais, moi j'aime bien parler d'agriculture urbaine au pluriel parce qu'il y a plein de formes. À Rennes, on a un territoire qui est très marqué justement par le lien à l'agriculture, historiquement la Prévallée, le fait qu'on soit une ville archipel, enfin qui soit très connectée justement au milieu rural. C'est pour ça que ça nous plaît aussi, moi en tant que citoyenne par exemple. Effectivement, on est très soutenu par la collectivité parce que souvent c'est des mises à disposition gratuites des terrains, ce qui n'empêche pas de complexifier la tâche parce que c'est des situations précaires. Parce qu'on est, comme tu le disais, pas mal d'associations et que l'agriculture urbaine, en tout cas à Rennes, a une vocation pédagogique forte, de production certes, mais surtout pédagogique et sociale.
Ceux qui ne connaissent pas le potager des cultures, donc on est dans le quartier du Blône, avec un projet qui est bien installé maintenant. Vous êtes combien? Vous y faites quoi?
Alors nous, on a plusieurs sites. On a la micro-ferme urbaine qui est vraiment derrière le triangle, qui est un lieu d'accueil. On sensibilise 7000 personnes à l'année, donc voilà, on voit passer pas mal de monde. Nous, on est 6 salariés, accompagnés par 200 bénévoles à l'année et une dizaine de volontaires en service civique. Et donc ça nous permet voilà, d'accueillir du public sur nos sites à Rennes, vraiment au Blône et sur Champy.
Il faut redire, c'est la bonne nouvelle que votre projet, il a été un temps menacé de déménagement avec un projet de construction d'un centre médico-psychologique qui aura bien lieu, mais juste à côté. Ouais. Donc, vous restez sur place.
On ne bouge pas, on n'a pas à déplacer tous nos bacs parce que nous, on est sur un terrain pollué. Donc, ça aurait été un chantier sur deux bonnes années. Et donc, les cultures restent en place et on peut continuer à accueillir du public.
Ça permet de parler de cette contrainte, et puis il y en a d'autres, mais liées au projet d'agriculture urbaine. En ville, il y a des tensions importantes sur le foncier, particulièrement dans Rennes Métropole. Et il y a aussi la question des terres. On se retrouve avec des terres de moins bonne qualité, souvent polluées.
Souvent c'est de la terre de remblai. Nous, en plus, on est au cœur d'un grand ensemble des années 60, le Blône. Donc, il y avait des chances, effectivement, que ce soit pollué. On y a cru un petit peu, mais bon. Très rapidement, on a découvert effectivement des polluants dans le sol. Et l'agriculture urbaine, il y a plein d'enjeux et plein de freins, en tout cas, qu'il faut transformer. Comme tu disais, la question de la pression foncière, de la qualité du sol, et aussi le fait qu'on soit très exposé au vol, aux dégradations, aux visites. Aux visites pas souhaitées, on va dire.
Alors comment on fait là-dessus? C'est de la pédagogie et puis du lâcher-prise?
Ouais, c'est plutôt du lâcher-prise parce que malgré de la pédagogie, on ne peut pas contrôler. En plus, nous, on est sur une zone où il y a beaucoup de gens qui passent. La nuit, on n'est pas là. Enfin, voilà. Il faut un peu lâcher prise, continuer à en parler pour dire non, mais ne nous faites pas ça. Mais voilà. Faut lâcher prise.
Alors, les Colverts, c'est vous qui coordonnez l'événement qu'on annonce, les 48 heures de l'agriculture urbaine, mais il y a plein d'autres structures qui participent. La Garden Party, l'association Nature en Ville, Quartier d'Armorique, le Jardin des Miracles, la Chambre d'Agriculture, les Jardins du Breil et l'école comestible. Vous venez avec cette structure-là, Laetitia Weber, qui est encore une structure nouvelle dans le paysage rennais. Vous êtes arrivée il y a quelques années.
Tout à fait. L'association a été créée en 2019 par Camille Abreau et le projet a été initié à Rennes en 2021 par une enseignante qui a démarré nos programmes comestibles dans sa classe. Parce que la mission de l'école comestible, c'est d'éduquer les enfants à l'alimentation saine, durable et délicieuse à travers des programmes comestibles qui sont mis en place sur le temps scolaire dans les écoles primaires. Et donc ces parcours d'ateliers sont mis en place et réalisés tout au long de l'année avec une vision de la terre à l'assiette.
Vous êtes combien dans l'association aujourd'hui?
On est environ 250 adhérents au niveau national. En revanche, à Rennes, on est une petite équipe d'une quinzaine de bénévoles.
Aujourd'hui, vous intervenez dans 3 écoles et 10 classes?
Exactement. Cette année, 3 écoles, une dizaine de classes ont bénéficié de ces parcours d'atelier de la terre à l'assiette.
Alors, vous arrivez dans les classes, vous intervenez à plusieurs reprises durant l'année. À quoi ça ressemble? Enfin, vous partez de loin ou on imagine que les enfants ont toujours déjà un tas de choses en fait en stock sur le sujet?
Eh bien... non.
Mince, j'avais de l'espoir.
Malheureusement, notre atelier phare, c'est la cagette de saison. Donc on arrive avec une cagette remplie de légumes de saison, locaux, issus d'une agriculture sans chimie. Et malheureusement, beaucoup d'enfants ne connaissent pas les légumes. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants tout l'univers du végétal qu'ils connaissent peu. Donc à quoi ça ressemble un atelier de l'école comestible. En fait, un atelier, c'est basé sur la méthodologie la bouche pleine et les mains sales. Donc, je pense que c'est assez imagé pour vous représenter un atelier. Et vraiment basé sur le faire. Donc, c'est les enfants qui transportent, qui transforment, qui expérimentent, qui goûtent et qui cuisinent. Et basé également sur le faire ensemble. Il y a vraiment le sens du collectif à travers nos ateliers.
Vous avez un exemple en tête de fruits ou de légumes où vous pensiez quand même qu'ils seraient identifiés, puis non?
La courgette, par exemple, on a entendu récemment que beaucoup d'enfants ne faisaient pas la différence entre une courgette et un concombre, par exemple. Mais par exemple, entre une courgette et une aubergine, voilà, y a des centaines d'exemples, mais les enfants connaissent pas. Donc nous, nos légumes phares, la betterave, le fenouil, et le but, c'est que voilà, les enfants découvrent ces goûts.
Et je confirme que c'est pareil chez les adultes. On fait les mêmes types d'ateliers et fenouil, betterave, concombre, courgette, ça reste des choses qui se confirment à l'âge adulte, en fait.
Il faut peut-être avoir l'occasion de les cuisiner pour les identifier. Si on cuisine peu...
On ne connaît pas leur goût.
Oui, et puis c'est des goûts forts. En l'occurrence, le fenouil, la betterave, par exemple, c'est très...
Je suis très réticente au fenouil.
Voilà, très l'avoue. Anisé. Il y a quand même plein de gens, nous, dans les paniers, par exemple, c'est un des légumes qui est le moins plébiscité.
Sur le projet de l'école comestible, à l'échelle d'une année, est-ce qu'on peut observer de vrais changements sur le rapport des enfants à l'alimentation, puis à ces fruits et légumes qu'ils découvrent? On est vraiment sur des petits pas déjà de découvrir?
Exactement. On a mis en place une mesure d'impact, justement, pour réussir à évaluer l'impact de ces parcours d'atelier sur les enfants, mais aussi sur les parents, parce que les parents sont invités à participer aux ateliers dans la classe. Donc le but, c'est vraiment que cette éducation alimentaire arrive jusque dans les foyers. Et effectivement, on voit des évolutions à la fois sur le développement du goût de faire soi-même, de cuisiner, la curiosité de goûter un légume que l'on ne connaît pas, et ensuite de découvrir des goûts et de découvrir qu'on aime en fait ces goûts.
On arrive au programme des 48 heures de l'agriculture urbaine, où on vous retrouvera. Donc c'est du vendredi 24 au dimanche 26 mai dans plusieurs lieux de la ville rennaise et puis même dans la métropole à Saint-Jacques-de-la-Lande, Champy et Torigné et Fouillard. J'ai compté une trentaine d'événements. On peut retrouver le détail en ligne sur le site national les48heures.com. Et on commence vendredi. Il va se passer des choses dès le matin à partir de 9h30 et jusqu'en soirée. Pas mal de propositions du côté de la Garden Party. On est dans le quartier de la Plaine de Beaux, quartier neuf. On dit ce qu'il va s'y passer, Hélène Brett.
On ouvre avec un marché de producteurs et productrices, et ensuite on enchaîne sur une soirée festive qui est proposée avec notamment des invitations aux familles sur l'ensemble du week-end pour faire des ateliers au jardin. Donc il y a des ateliers parents-enfants, et puis même si on n'a pas d'enfants, on peut aussi venir.
Tout le monde est le bienvenu. Donc le marché de producteurs, c'est à partir de 16h, suivi donc d'une soirée festive. Je note aussi, il y a un atelier fresque de l'alimentation. Vous y serez avec l'école comestible?
Non, il s'avère que je suis animatrice de la fresque de l'alimentation, et donc j'animerai cette fresque à la Garden Party.
Alors, il faut dire qu'il y a toute une galerie de fresques qui existent, souvent liées au changement climatique. Je ne connaissais pas celle de l'alimentation. Elle se déroule de quelle manière?
Elle est totalement inspirée de la pédagogie de la fresque du climat, qui a été la première fresque qui a été créée sous ce format-là. Et là, on fait vraiment un focus sur l'alimentation, et le but, c'est de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires liés à notre alimentation.
Le samedi 25 mai, à partir de 10h et jusqu'en fin d'après-midi, il se passe encore de nombreuses choses, notamment du côté de Torigné-Fouillard avec l'association ANET, Association Nature Environnement Torigné-Fouillard, à laquelle on a déjà consacré un reportage dans cette émission. Des portes ouvertes, c'est souvent le cas avec les structures qui participent.
Oui, et c'est effectivement un des enjeux du week-end, c'est de mettre en lumière ce qui se passe sur le territoire. Donc il y a pas mal de portes ouvertes qui sont proposées, et surtout, comme on parlait tout à l'heure de différentes formes d'agriculture urbaine, ça permet de se faire, si on est là tout le week-end, de se faire un petit circuit. En plus, il fait beau, a priori, ce week-end. Donc, pour aller voir ce qui se passe sur les différents terrains.
Donc, à la Jutauderie, porte ouverte, troc de plantes et même chantier participatif. Ça se passe samedi. On vous retrouvera, Laetitia Weber, au Jardin du Breil, pas très loin de Villejean, je crois.
Tout à fait, non.
avec un atelier cuisine, pas que pour les petits.
Exactement, c'est un atelier enfants-parents, donc vous êtes tous les bienvenus à nous rejoindre pour cuisiner les légumes qui seront récoltés sur place.
Est-ce qu'on peut déjà donner des indices sur les recettes qui seront exécutées?
Alors le but c'est vraiment de cuisiner, ce sera l'atelier cagette de saison, et de cuisiner les légumes crus. Donc on va amener les enfants à râper, découper, pour faire des salades de légumes crus pour se régaler.
C'est peut-être le moment de dire, du côté du potager des cultures et puis des colverts, ce qui pousse en ce moment chez vous. On vous retrouvera, vous, pour des portes ouvertes le dimanche, on y arrive.
Ouais. Alors beaucoup d'herbes, parce que là c'est la saison, donc que ce soit les ciboulettes, les menthes, il y a plein de choses là qui commencent à sortir. De l'herbe aussi, vu le temps qu'il fait. Il y a les légumes primeurs, on commence à avoir des carottes, avoir des petites pommes de terre primeurs, des choses comme ça. On a des salades, là c'est la période. Les toutes premières courgettes là qui sont arrivées, donc ça commence. On commence à avoir un peu un avant-goût des légumes d'été, mais il nous faut encore un petit peu plus de soleil.
Ouais, normalement, il est censé arriver, mais ça fait plusieurs semaines que j'annonce ça à mes collègues ici, donc j'arrête les prévisions. Le potager des cultures, il ouvrira à ses portes, donc dans le quartier du Blône, à deux pas du Triangle, dimanche prochain, toute la journée.
C'est l'après-midi. 14h, ouais. On fait des portes ouvertes l'après-midi à partir de 14h, puisqu'on a aussi deux activités qui sont en parallèle. Une balade botanique qui se fait proche du potager, et l'événement phare qui a été plébiscité l'année dernière, qui est la transhumance. Donc on a des moutons, l'association des border collies du 35, qui seront encadrés par la police au milieu des tours et qui viennent jusqu'au potager.
Un drôle de convoi.
Ouais, exactement. C'est assez marrant à voir. C'est assez étonnant, mais ça permet de parler de la place de l'animal en ville et de sensibiliser justement sur la place de l'animal, même dans notre société en général.
Mais alors les transhumances, moi j'associe plutôt ça au milieu montagne. On n'est pas habitué à voir ça en Bretagne.
Non, montagne et Bretagne, c'est vrai que tout de suite on ne fait pas le lien. Et transhumance et Blône non plus. Justement, c'était pour faire un petit clin d'œil à expliquer déjà ce que c'est qu'une transhumance et pouvoir illustrer justement nos propos avec quelque chose d'assez concret. Et puis ça amène les gens à bouger aussi. On marche pendant une demi-heure, 45 minutes. Y a plein de gens aussi qui n'ont pas l'habitude de marcher aussi longtemps, donc ça donne une raison de sortir de chez soi.
La transhumance donc, de moutons, elle prendra le départ là, de ce parcours à partir de 13h30 le dimanche 26 mai. Elle part de...
Elle part du Landry.
Du Landry, pour aller jusqu'au potager des cultures, où il se passe donc ensuite plein de choses l'après-midi. On donne un peu un avant-goût.
Alors sur le jardin, sur les portes ouvertes, il va y avoir une vente exceptionnelle de plants, de légumes, de fleurs, d'aromates. Et puis il y aura un petit point d'accueil, et ensuite ce sera des balades sur le site. En fonction du nombre de personnes qu'il y a, on peut faire des visites guidées.
Notamment une balade botanique qui partira sur les coups de 15h. On redonne le site internet pour retrouver tout le programme, donc à l'échelle nationale, les48h.com, pour cet événement, les 48 heures de l'agriculture urbaine qui a lieu à Rennes du vendredi 24 au dimanche 26 mai. C'est gratuit.
C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous. Justement, il faut voir en fonction des propositions. Je rajoute qu'il y a aussi la basse-cour, les amis de Permagraine, par exemple, qui font des balades. En général, elles sont accessibles à un maximum de personnes, donc faut pas hésiter à regarder le programme.
Et c'est le moment où je vous représente Hélène Brett, donc coordinatrice d'École Vert, cette association qui fait vivre le potager des cultures dans le quartier du Blône, et puis cet événement, les 48 heures de l'agriculture urbaine, proposition à laquelle on vous retrouvera. Laetitia Weber, vous venez de l'École des comestibles, une association installée à Rennes depuis 3 ans et qui s'est fixée pour mission d'éduquer les palais des plus petits. On vous retrouve donc en ligne, il y a aussi un événement Facebook pour l'événement à l'échelle rennaise. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Oh, hop, unaïda laïda, hop, hop, unaïda laïda, hop, hop, unaïda laïda.
Ça arrivera par Mze China. C'est un morceau à retrouver sur un album qui s'appelle Eleza. C'est sorti début 2023. Le dernier disque pour ce chœur géorgien Mze China qu'on retrouvera à la Garden Party demain, vendredi 24 mai, à partir de 20h30. Il se trouve que c'est le seul ensemble professionnel de musique géorgienne à l'échelle européenne. Donc, à aller voir. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, continue avec un reportage. Et pour ce reportage, c'est Ambre, étudiante en stage de la SCOL, qui a emmené son micro au Triangle, un équipement qui accueille ce jeudi 23 mai un colloque piloté par le réseau Louis Guillou. C'est une association qui cogite sur la santé des personnes précaires. Ce rendez-vous-là, ce colloque dont on parle, il a lieu tous les deux ans dans une ville différente de la région. Le thème retenu cette année, la prise en soin des personnes exilées. Et un thème choisi dans un contexte de remise en question de l'aide médicale d'État.
Bonjour Antonin Bravé, bonjour Bluen Holnet, vous êtes tous les deux coordinateurs de projets au sein du réseau Louis Guillou. C'est une association à but non lucratif basée à Rennes qui milite pour l'accès aux dispositifs de soins du droit commun. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot sur le réseau Louis Guillou, sur ses missions et sur ses engagements ?
Alors le réseau Louis Guillou, c'est une association qui date de 2006, qui a été... créé sur les questions d'accès aux soins des personnes migrantes et notamment sur les questions d'interprétariat. Donc au sein du réseau Louis Guillou, on a un pôle d'interprétariat avec une vingtaine d'interprètes qui font de l'interprétariat en santé. Et au fur et à mesure des années, il y a différents projets qui se sont développés au sein de l'association. Donc on a aussi un centre médical pour les personnes migrantes qui ont des droits de santé ouverts ou qui n'ont pas de droits de santé ouverts. Peut-être qu'on reviendra un peu sur le sujet ensuite. On a aussi des appartements de coordination thérapeutique. On a une équipe mobile santé précarité depuis quelques années et aussi depuis l'année dernière un centre de santé mentale. Et on coordonne aussi le centre de lutte anti-tuberculose du département. Donc ça c'est un peu sur les projets où on a des liens avec les publics, mais on a aussi des dispositifs que nous on coordonne qui sont plus de l'appui aux professionnels. Donc à la fois le dispositif DataSam, donc, qui est un dispositif d'appui aux professionnels pour accompagner les personnes migrantes, où on propose des formations, des outils. Et aussi, moi, je coordonne le dispositif SIM, donc, qui est un dispositif de consultation avec interprétariat en médecine de ville. Donc là, on est en lien avec les médecins généralistes et on leur propose aussi de la formation, des outils pour pouvoir accueillir les personnes dans le droit commun. Et pour finir, on a aussi un pôle de coordination santé sexuelle où là, on propose de l'accompagnement aussi aux professionnels pour pouvoir avoir aussi des outils, des formations sur les questions de santé sexuelle.
Et donc jeudi 23 mai, le réseau Louis Guillou organise un colloque au Centre culturel du Triangle à Rennes, quartier du Blône. Un colloque autour de la santé des exilés. Donc c'est un sujet qui rentre complètement dans l'actualité puisque le gouvernement compte apporter dans les prochaines semaines des ajustements à l'aide médicale d'État. Et donc dans un contexte qui, on le sait, se complexifie de jour en jour avec la montée de l'extrême droite et des politiques toujours plus restrictives qui accentuent la précarisation sociale des exilés. C'était important pour vous de mettre ce sujet sur la table ?
Bah oui, c'est vrai que le choix du thème du colloque, il est pas effectivement, il a pas grand-chose à voir avec le hasard. Le projet de loi l'année dernière, asile, immigration, et puis là, les mesures de restriction du périmètre de l'AME en cours, là, que vous venez de mentionner, bah, elles font effectivement qu'il y a une grosse actualité autour de ce sujet, hein, de la santé des personnes migrantes sur le territoire français. Donc bah, nous, ça nous semblait effectivement important de pouvoir donner la parole à des experts, mais aussi à des professionnels de terrain, pour qu'ils puissent un peu nous raconter comment ça se passe, eux, dans leur quotidien, essayer de relater un peu le point de vue des publics, essayer de comprendre un peu qui ils sont, quels sont les besoins et ce à quoi ils doivent faire face aujourd'hui, et puis essayer de comprendre comment est-ce que le système de santé tel qu'il est organisé aujourd'hui, il ne permet malheureusement pas de répondre correctement à la situation, et comment est-ce que du coup il faudrait un peu le faire évoluer. Pour bien comprendre un peu hein, le public dont on parle, aujourd'hui il y a voilà, il y a des personnes qui ont des droits de santé et des personnes qui n'ont pas de droits de santé. Ce qu'on appelle des droits de santé, c'est soit PUMa C2S, la complémentaire santé solidaire, soit l'AME, l'aide médicale d'État. Dans les deux cas, c'est la même chose. Ça vous permet d'accéder à ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire l'offre en santé accessible à vous, à moi, la médecine de ville, les cliniques, etc. Maintenant, c'est pas parce que ces personnes bénéficient de ces droits que c'est pour autant facile de se faire soigner, parce qu'il y a plein de barrières effectivement qui limitent l'accès à ces soins, mais en tout cas la théorie veut qu'ils peuvent se faire soigner. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont sans droit de santé, parce qu'il faut savoir que depuis 3-4 ans ont été instaurées ce qu'on appelle les mesures de carence, qui font qu'il y a des personnes qui doivent attendre un certain temps aujourd'hui avant de pouvoir ouvrir des droits. Et puis bah, en ce moment le périmètre de l'AME qui est, enfin, en tout cas qui va très certainement d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois être assez drastiquement restreint, et donc faire grossir encore plus le rang des personnes qui seront sans droit de santé. Et donc là, ces personnes qui sont sans droit de santé, elles ont aujourd'hui pas d'autre solution pour se faire soigner que d'émarger sur des dispositifs associatifs comme le centre de santé qui est géré par le réseau Louis Guillou ou les PASS, les permanences d'accès aux soins, qui sont les structures hospitalières. Ces structures, elles sont pas dotées pour recevoir toutes les personnes qui n'ont pas de droit de santé. C'est déjà très difficile pour elles aujourd'hui d'assumer voilà, la file active qu'elles doivent assumer. Si en plus, demain, avec la restriction du périmètre de l'AME, ben, y a de plus en plus de personnes qui sont sans droit, elles devront accueillir encore plus voilà, de personnes, et ce sera pas possible. Donc ça crée un problème pour ces structures-là. Ça crée un problème évidemment au premier lieu pour les personnes elles-mêmes, parce que ça sera de plus en plus compliqué pour elles de se faire soigner. Et puis ça crée aussi un problème de santé publique pour le dispositif du droit commun, parce qu'il faut bien voir que toutes les personnes qui, elles, du coup, auront des droits, bah, du coup, on n'aura pas d'autre solution que de les orienter vers le dispositif de droit commun. Et le dispositif et les dispositifs de droit commun, ils ne sont pas aujourd'hui équipés, ou en tout cas, ils ne sont pas adaptés pour forcément toujours recevoir ces patients-là. Donc c'est tout ça, en fait, qu'on essaye un peu de remettre en perspective et d'interroger. C'est de dire, comment est-ce que aujourd'hui on peut repenser un système de santé qui soit plus global, qui permette déjà d'être plus équitable dans l'accès aux droits, de donner effectivement un libre accès aux droits à tout le monde, et une fois que les droits sont ouverts, de lever les barrières qui empêchent ces personnes d'accéder effectivement à une offre de soins. Donc en travaillant du côté de l'offre et du côté de la demande, donc, c'est-à-dire aussi bien du côté bah, des publics, en travaillant aussi sur tous les déterminants de santé, le logement, l'accès à l'alimentation, etc. Et puis en travaillant sur le système de santé, sur auprès des professionnels, en essayant bah, de mieux les accompagner et les outiller pour qu'ils soient effectivement en capacité de recevoir ces publics-là, quoi.
Et je voudrais qu'on prenne deux minutes pour s'attarder sur l'intitulé de ce colloque, « La prise en soins des personnes exilées, une expertise à généraliser ». Alors l'intitulé, il est assez opaque. Le terme expertise, il est employé avec des grosses guillemets. Pourquoi ?
Parce que justement, ce qu'on a voulu interroger, c'est justement cette question d'expertise, à savoir qu'aujourd'hui, il y aurait un lieu commun qui voudrait qu'il y a seulement les professionnels de santé experts des publics exilés qui seraient en capacité de les prendre en charge, de les recevoir et de les soigner. Comme s'il fallait être vraiment expert du sujet pour être en capacité de les soigner. Donc c'est certainement vrai dans une certaine mesure, mais on a voulu interroger ça et effectivement se demander est-ce que finalement c'est pas aussi le rôle de tout à chacun d'un point de vue médical mais aussi au niveau du social d'être en capacité d'accompagner, de recevoir, de soigner ces publics-là. Si les médecins de ville, etc., ne le font pas ou ne le font que très peu, c'est aussi pour des raisons évidentes liées à l'état de l'offre de soins, etc. Et du coup, on voulait essayer d'interroger un peu pourquoi est-ce qu'il y a finalement si peu de professionnels de santé qui reçoivent ces patients-là et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux les accompagner, comment est-ce qu'on peut les doter d'outils, comment est-ce qu'on peut essayer de mieux les aider dans la prise en charge de ce public.
Et donc la journée se décline en deux thèmes, chacun rythmé par des tables rondes. Le premier thème qui occupera la matinée, c'est constat et caractéristiques d'une population cible et d'une offre de santé compatible. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il va s'agir d'établir les différents profils des personnes exilées et de plus généralement dresser un état des lieux de leur prise en soins ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le matin, on a vraiment voulu essayer de parler des éléments de constat. Quelle est la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain, d'un point de vue des patients, donc de ce qu'on dit, de ce qu'on appelle la demande en santé, c'est-à-dire en fait qui sont les migrants primo-arrivants d'aujourd'hui, quelles sont les principales caractéristiques qu'il faut avoir en tête pour être en capacité de répondre à leurs besoins en santé, et l'état aussi de l'offre en santé. Donc en fait tout le système de soins tel qu'il est organisé aujourd'hui et donc de voir en fait entre cette offre et cette demande qu'est-ce qui est compatible et qu'est-ce qui ne l'est pas et quels sont les sujets sur lesquels on doit travailler si on veut pouvoir justement rendre les deux compatibles.
Vous avez des exemples à nous donner ?
Sur la question de l'interprétariat par exemple, on voit bien que c'est une des difficultés en tout cas qu'il y a dans la médecine générale de pas avoir accès à de l'interprétariat financé. Et donc c'est vrai, il y aura tout un temps sur la question du besoin d'être compris et la difficulté aussi de pouvoir être compris si jamais on n'a pas accès à l'interprétariat, la question aussi de la différence culturelle au niveau de certaines mimiques, au niveau par exemple des hochements de tête qui veulent pas forcément dire la même chose, etc. Donc c'est un exemple aussi, et aussi dans ce temps-là on échangera sur parfois aussi ce que nous en tant que professionnels on peut projeter dans ce qu'ont besoin les patients et la réalité de leurs attentes, et donc de pouvoir aussi s'adapter au mieux aux besoins des patients. Et aussi voir les évolutions des politiques publiques et quel impact ça a en fait sur le système de santé pour les patients.
Et donc après la pause du midi, il y aura une performance artistique proposée par Fiona Ouez, une danseuse originaire du Finistère. Donc ce sera un moment plus sensoriel qui amène à une autre forme de réflexion peut-être ?
On a profité du fait d'être dans la cité de la danse, de se dire que c'était une bonne occasion on sait qu'il y a des spectacles de danse qui se déroulent dans la salle où le colloque aura lieu. Et donc on avait eu connaissance de cette artiste qui travaillait sur les questions de migration et qui donc proposait un spectacle sur cette thématique. Donc on trouvait ça que c'était aussi une façon de montrer d'autres façons de militer, d'autres façons de montrer un art sur cette thématique.
Viendra ensuite le deuxième temps fort de cette journée, cette fois-ci autour du thème la mise en réseau comme réponse et perspective d'un système de santé en constante recherche d'agilité. Ici, il sera question d'explorer la possibilité de créer des passerelles entre les différentes structures d'accompagnement. Comment on doit le comprendre ?
L'idée de l'après-midi, c'est d'explorer les pistes de solutions. Sur la base de ce qui existe déjà, parce qu'il existe pas mal de choses. des dispositifs portés par le réseau Louis Guillou, mais aussi portés par d'autres structures et dans la région Bretagne et un peu partout en France. Et puis, sur la table ronde 3, celle du début d'après-midi, l'idée c'est justement de voir quels sont les outils qu'on peut mettre effectivement à disposition de ces professionnels pour les accompagner et les aider dans leur pratique. Comme le disait Bleuhen, sur le sujet de l'interprétariat, sur le sujet de la médiation en santé, on va essayer d'explorer aussi des pistes de la revalorisation des consultations, on va parler du dispositif SIM qui est justement porté par le réseau Louis Guillou, etc. Pour voir en fait, essayer de tirer un peu les leçons de ce qui est déjà mis en place et puis essayer de poser aussi un peu les bases de futurs dispositifs qu'on aimerait voir pérenniser ou évoluer dans le futur. Et la dernière table ronde de l'après-midi, elle est consacrée au sujet de la santé communautaire. C'est un sujet qui est un peu le vent en poupe ces derniers temps. C'est un sujet qui repense vraiment la façon qu'on a de proposer de la santé. Ça le repense de façon assez radicale par plein de points de vue. Ça nous semble intéressant de s'appuyer sur les perspectives et les solutions qui sont proposées par la santé communautaire pour voir appliquer au sujet de la santé des personnes exilées, comment est-ce que ça peut nous inspirer et comment est-ce que, au-delà d'ailleurs de seulement ce sujet-là, ça nous permet un peu de poser les bases d'un système de santé qui serait plus large, plus juste, et du coup plus accessible à tous.
Et donc pour revenir justement à l'intitulé de la dernière table ronde, travailler en équipe, les réponses intégrées, entre guillemets, dans la prise en soin des patientes, l'inspiration de la santé communautaire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du concept de réponse intégrée ?
L'idée, c'est de dire en fait que la santé communautaire, ça permet, et là pour reprendre justement le terme du colloque, de faire monter tous les professionnels en expertise sur le sujet, et non pas certains dans leur coin. Au sein d'un centre de santé communautaire, c'est le médecin qui fait bénéficier de son expérience au travailleur social et c'est le travailleur social qui fait bénéficier de son expérience au médecin. Je pourrais citer plein d'autres métiers, mais l'idée c'est de dire en fait qu'au sein de la même structure, chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice, mais s'enrichit aussi du regard et de l'expertise de l'autre. Ne pas oublier aussi l'expertise du patient lui-même. Et donc en fait l'idée c'est de dire qu'il n'y a pas le médecin tout-puissant d'un côté, le travailleur social un peu dans l'ombre, le patient qui subit, etc. Mais que tout le monde est un peu au même niveau dans le souci du bien du patient, mais aussi du bien commun, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose, et puis là je ne parle pas non plus du sujet du paiement à l'acte, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui... la santé communautaire qui permet de repenser la façon qu'on a de proposer des services en santé de façon radicalement différente de ce qui existe aujourd'hui la plupart du temps avec les professionnels qui sont installés en libéral, tels qu'on les connaît de façon classique. Ça nous semblait effectivement intéressant d'explorer ces pistes-là pour essayer d'illustrer ce qui pourrait être amené à être généralisé sur le sujet de la prise en soin des personnes exilées.
Et en parlant d'illustration, justement, tout au long de la journée, les visiteurs et les visiteuses auront la possibilité de s'attarder sur le travail d'Olivier Sekeldi à travers l'exposition photo « Nous ne faisons que passer ». Est-ce qu'on doit comprendre ici une utilisation de l'image pour donner corps à la réflexion ?
Effectivement, c'est un peu à la manière de ce qu'on a voulu aussi proposer avec la performance de danse. Ça nous semblait intéressant de pouvoir proposer une matière qui amène à la réflexion sur qui sont ces personnes-là, de quoi elles peuvent effectivement avoir besoin, comment est-ce qu'on peut les accompagner autrement. Et donc, effectivement, en proposant à Olivier non seulement d'exposer à l'occasion de cette journée, mais aussi d'être présent avec nous pour expliquer son travail aux personnes qui seraient intéressées pour échanger avec lui.
Antonin Bravé, Bleuhen Holnet, je vous représente une dernière fois. Vous êtes tous les deux coordinateurs de projet au sein du réseau Louis Guillou qui organise ce jeudi 23 mai un colloque au Centre culturel du Triangle à Rennes, quartier du Blône, autour de la santé des personnes exilées. Merci beaucoup. Ooh.
déguisé dans le sable. Je vois l'avenir dans les traces de tes pas et ça m'emmène loin. Je bois la tasse et l'eau me rend dingue. Rentre dans ma bouche et tout devient sel. Pas la peine de dessiner le ciel. Pas besoin d'être sans nuage. Il ne prend la forme que de ceux qui le cachent. Comme je me sens dans cet instant. Les contours se floutent pris dans le courant. L'eau qui me traverse semble décider de ce que je fais. Ce que je vois, ce que je bois, ce que je sens. Ce que je crois, ce que je prends, ce que je donne. Elle me dit d'écouter. J'entends lever les gens, les pensées douces dans le vent. C'est entêtant, c'est mortel. Ne quitte pas le bout de ma langue, le bout du sel. Je sens couler le temps. Je vois l'avenir dans les traces de tes pas et ça m'emmène loin. Je sens le vent souffler sur mes mains, mais plus son odeur de brûlé, de brûlé.
Sur Canal B avec le morceau « L'eau qui me traverse ». C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et que vous pouvez retrouver sur un EP qui s'appelle « Sensation ». C'est sorti, ça va sortir très bientôt, le 31 mai prochain, sur le label Figure Libre, un an après le dernier EP de ce quatuor psychédélique tourangeau. Le 21 juin prochain, ils seront à Nantes, si vous voulez les voir, et puis le 22 du côté de Ploërmel, dans le Morbihan. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, une station Canal B qui fête ses 40 ans, et on fête ça avec 40 heures de direct à partir de vendredi 9h, vendredi 24 mai, et puis jusqu'au samedi tard dans la nuit. C'est pour ça que c'est la dernière émission d'information locale de la semaine. Demain, journée un peu spéciale, on sera avec Yann de 9h à 11h en direct, donc depuis la maison de quartier Villejean, avec plein d'invités, culture, mais aussi vie associative. Avant de se quitter, il reste la recommandation du jour.
Thank you.
La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise. Aujourd'hui, trois idées de sortie pour le week-end, on prend un petit peu d'avance. La fête du jeu, donc ça c'est samedi 25 mai de 10h30 à 19h30, ça se passe aux Prairies Saint-Martin, ici à Rennes, un événement qui est porté par la maison de quartier La Touche, avec d'autres structures, le collectif Fête en Jeu, mais aussi la ville de Rennes. Des milliers de participants sont attendus, avec un jeu qui va être exploré sous plein de formes, jeux géants, de société, grandeur nature ou encore escape game, et c'est une proposition qui est gratuite. Le même jour, il y a la fête du vélo et de la marche, c'est à peu près aux mêmes horaires, de 10h à 18h sur le mail François Mitterrand, donc toujours à Rennes. Accompagné de partenaires associatifs locaux, la ville accueillera gratuitement les voyageurs verts, qu'ils soient à vélo, en skate, à pied ou encore en trottinette, et au programme des ateliers de sensibilisation, des balades guidées sur 7 parcours et puis aussi de la musique. Cette année, l'événement il se déploie même hors de Rennes, dans 16 communes de la métropole. Le programme complet est à retrouver en ligne sur métropole.rennes.fr. Troisième et dernière idée sortie pour le week-end, c'est Zinzinerie, un festival de fanzines et d'illustrations. Ce sera la première édition. Rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 mai au bâtiment à Modelé. On est dans le quartier Clenay, sur le site de l'ancienne Antipode. Et sur place, le public pourra découvrir un salon de micro-éditions, deux expositions, des conférences et des lectures, et puis une soirée concert le samedi. Pour les soutenir, il y a une cagnotte en ligne sur la plateforme de financement participatif Hello Asso. Et puis sur place, qui est chouette, c'est que l'entrée sera libre. Pour plus d'informations, il y a toujours une page Instagram avec le détail du programme qui s'annonce riche. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.